Humeur de ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambo.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Humeur de ville qui interroge les aménageurs franciliens sur leur innovation dans les process. Ce mois-ci, nous recevons Pascal Poplin, le directeur général de Sequano Aménagement, qui travaille principalement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, un département qui foisonne de projets urbains, Rémi Cambo.
Oui, alors je ne vais pas les détailler, vous allez en évoquer, Lucie, avec Pascal Poplin, bien sûr, mais recevoir le directeur général de Sequano, c'est l'occasion d'évoquer rapidement la Seine-Saint-Denis et quelques enjeux, car ce département va connaître des mutations considérables dans les 10 prochaines années. Du fait de projets urbains majeurs, beaucoup sont connus, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques ou la réalisation du Grand Paris Express. On le sait moins, mais un tiers des 68 gares du GPE seront en Seine-Saint-Denis. Et évidemment, autour de ces gares, les projets foisonnent, plus ou moins maîtrisés parfois. Les projets sont si nombreux que voici un an avant la pandémie de Covid, le département avait désigné 3 équipes d'experts, d'architectes et d'acteurs culturels pour réfléchir à la façon dont tous ces projets pourront renforcer l'identité métropolitaine de cette Seine-Saint-Denis. Alors, un an après le premier confinement, la Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus touché par la surmortalité, et pour une raison principale, le cumul des fragilités sociales. Et cela met l'accent sur peut-être une autre urgence. C'est le plus jeune département de France, et ce département est aussi désormais le plus peuplé d'Île-de-France après Paris, avec plus d'1,6 million habitants, et c'est aussi le plus dynamique par sa démographie, ce qui impose à l'évidence de construire en répondant aux défis des inégalités. Alors le foncier ne manque pas, terrain de l'ère industrielle, quartier de logement social, secteur pavillonnaire en transition. Il ne manque pas, mais il est compliqué, et c'est peu dire qu'on a besoin ici d'aménageurs professionnels, tant la mutation urbaine semble être au centre de toutes les questions posées et urgentes en même temps que la question sociale. Mais l'offre de logements neufs, parallèlement, on voit s'effondre littéralement. Cadre de Ville vient de publier en exclusivité la prospective des ventes au détail de logements neufs. En mars, à fin mars dans la région, seuls 14 000 logements étaient proposés à la vente, soit un tiers de moins qu'il y a un an et moitié moins qu'il y a 2 ans. Alors, on sait qu'il n'y a pas de logements sociaux s'il n'y a pas de logements privés, puisque la VEFA représente environ 60% de la construction sociale. Et en Seine-Saint-Denis, en regard, un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc oui, il faut construire, mais il faudra lui faire une place.
Humeur de ville, l'interview.
Pascal Poplin, bonjour. Je le disais, vous êtes le directeur général de Sequano Aménagement. Sequano Aménagement qui est aménageur, constructeur, mais aussi promoteur et conseil, y compris en dehors du territoire départemental, puisque vous êtes par exemple aménageur sur des AKHR dans les Yvelines et Beson dans le Val d'Oise. Sequano qui a validé en juin 2020 son nouveau plan stratégique 2021-2025, à l'ordre du jour notamment le statut de société à mission qui devrait être effectif dès cette année, mais aussi la création d'ici 2 ans de nouveaux outils d'intervention, Sequano Patrimoine, une filiale destinée à porter, mettre en location et gérer des locaux situés en pied d'immeuble, et Foncière Sequano, une filiale permettant d'acquérir et de porter des fonciers ayant vocation à muter. Sequano a aussi engagé une réflexion sur le bail réel solidaire avant la création d'un OFS, et puis vont s'ouvrir sur l'année 2021 des discussions sur l'actionnariat de Sequano. Cela fait beaucoup de matière, Pascal Poplin. Sur ce dernier point de l'actionnariat, qu'est-ce que vous imaginez comme évolution?
Je crois qu'il faut une évolution qui tienne compte de ce qu'est le nouvel environnement institutionnel qui a émergé au cours des dernières années avec la mise en œuvre en particulier de la loi NOTRe, qui fait que ce qu'est historiquement l'actionnaire de référence de Sequano, le département de la Seine-Saint-Denis, qui a 55% du capital de la société, ne dispose plus aujourd'hui, c'est la loi, de compétences en matière d'aménagement. Et puis, d'autres entités, la métropole du Grand Paris, pour les opérations dites d'intérêt métropolitain, et les établissements publics territoriaux, sont aujourd'hui nos principaux donneurs d'ordre. Et à l'exception d'Est Ensemble, ils ne sont pas de manière significative autour de table de Sequano. Donc du côté des actionnaires publics, la réflexion qu'il conviendra de mener après les élections départementales du mois de juin, c'est comment on fait coller le tour de table de l'actionnariat de Sequano à la réalité de ce que sont aujourd'hui ses partenaires et ses donneurs d'ordre. Ça ne signifie pas que le département de la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire, entend se désengager. Je pense qu'il a vocation à rester, compte tenu de son rôle et compte tenu de l'histoire, un actionnaire de référence. Mais par le biais d'une augmentation de capital, nous pouvons accueillir autour de la table de nouveaux partenaires qui aujourd'hui sont associés à la gouvernance des opérations que nous faisons sur leur territoire, mais ne sont pas forcément associés à la gouvernance de la société.
Est-ce qu'il est aussi envisageable d'imaginer un jour un rapprochement via un GIE, par exemple, avec d'autres EPL du territoire séquano-dionysien, par exemple la SPL Le Bourget, ou encore Ensemble, ou peut-être même Pleine Commune Développement? Est-ce que ça fait partie des réflexions également?
Ça fait partie des réflexions que nous menons déjà depuis un moment, puisque c'était le précédent plan stratégique qui avait pointé cette opportunité. Et nous avions commencé d'y travailler avant les élections municipales, en particulier, vous les avez citées, avec ce qui était CEMIP et qui est aussi la SPL Ensemble, qui intervient sur Pantin et sur le territoire d'Est Ensemble, avec la SPL Le Bourget Grand Paris, mais aussi avec la SEMRO, et qui est également SPL Paredev du côté de Rosny-sous-Bois et du territoire Grand Paris Grand Est, et ainsi qu'avec Socarène à Noisy-le-Grand. Ces projets ont été un peu mis en stand-by d'une part par les élections municipales qui se sont un peu étirées dans la durée, et d'autre part par effectivement le fait que le changement de gouvernance de l'établissement public territorial Pleine Commune conduit aujourd'hui à envisager que Pleine Commune Développement et sa SPL puissent aussi faire partie du tour de table. Donc ça, je pense que ce sont des sujets sur lesquels, là aussi, nous discuterons au deuxième semestre de l'année 2021.
Je ne vous parle pas de Citalios et de la SADEF qui sont sur les autres départements de la Petite Couronne. Est-ce qu'il y a aussi des réflexions, des choses qui peuvent évoluer de ce côté-là, dans la répartition un peu des opérations que vous avez ?
Alors, vous le savez, nous vivons dans un univers, désormais, l'univers de l'aménagement est un univers totalement concurrentiel. Non seulement entre opérateurs publics, qu'il s'agisse d'opérateurs d'État ou qu'il s'agisse d'opérateurs émanant des collectivités territoriales, mais également avec les opérateurs privés, qui, tous les grands groupes ont développé un département aménagement qui peut venir se positionner sur les opérations. Bon, nous avons des contacts directs avec ce que j'appelle mes cousins, Citalios d'un côté, Sadev de l'autre. On se voit d'ailleurs prochainement, les directeurs généraux, comme on le fait une à deux fois par an, pour échanger sur des problématiques qui la plupart du temps nous sont communes. Après, il y a des territoires sur lesquels chacun considère qu'il a une légitimité historique, et donc l'idée, en tout cas mon état d'esprit, c'est pas forcément d'aller chercher à envahir ces territoires. Et puis il y a des endroits où nous pouvons peut-être, pour des raisons particulières, parfois nous présenter ensemble dans des consultations, où et ça arrive, et là on sort des départements qui sont nos départements d'origine tout en restant en Île-de-France, où on peut se trouver concurrent dans des consultations, c'est le cas en ce moment. Sur une consultation en particulier à laquelle je pense, et peut-être sur d'autres qui vont venir.
Vous ne m'en direz pas plus, j'imagine, à ce stade.
C'est difficile d'en dire plus parce qu'il y a des dossiers qui sont en cours d'analyse par les collectivités qui les ont lancés, et que bien évidemment, nous les laissons travailler et savoir ce qui en sortira.
On suivra ça de très près à Cadre de Ville en tout cas. Votre plan stratégique vous emmène aussi à accélérer sur la question du réemploi des matériaux et l'usage du biosourcé et du géosourcé. Des expérimentations sont déjà en cours et je voudrais qu'on parte sur la ZAC des Rives de l'Ourcq à Bondy, où des charpentes métalliques et des garde-corps des hangars à déconstruire sont en cours de réemploi notamment. Un mot sur cette expérimentation et cette volonté d'accélérer sur cet enjeu ?
On voit bien aujourd'hui, à travers toutes les attentes qui sont exprimées par les populations, qui sont relayées par les élus, les problématiques auxquelles notre société est confrontée, qu'il s'agisse des problématiques environnementales, qu'il s'agisse de la problématique climatique, que un des enjeux qui est devant nous, c'est de réduire l'empreinte négative que nos projets peuvent porter à l'environnement. Et donc, pour cela, il faut être innovant. Et être innovant, c'est se réinterroger en permanence. C'est pas simplement se contenter d'appliquer des recettes qui étaient innovantes il y a une dizaine d'années, comme Sequano a pu le faire avec la collecte pneumatique des ordures ménagères ou avec la mise en place de nous qui étaient des alternatives plus écologiques au système d'assainissement traditionnel. Donc, parmi les quatre chantiers que nous avons lancés dans le cadre du plan stratégique de Sequano pour les cinq prochaines années, on a déjà traité du chantier des moyens avec les questions de capitalisation. Vous avez évoqué, on en parlera peut-être, le chantier des outils sur ce que Sequano peut proposer aux collectivités. Il y a également, vous l'avez aussi évoquer la question de l'identité de Sequano, et puis il y a le chantier de l'innovation. Et chantier d'innovation, ça consiste non seulement à réfléchir, mais également à être capable de faire des propositions et de pouvoir acter des orientations concrètes dans un certain nombre de domaines. Les deux premiers sur lesquels Sequano s'est penché et est en situation aujourd'hui de dire non seulement nous avons quelques premiers actes, mais ensuite nous sommes aussi capables de proposer à partir de ces premiers actes aux collectivités dans les concessions existantes ou dans les opérations pour lesquelles nous aspirons à être le concessionnaire, d'introduire de nouveaux procédés. Et le réemploi des matériaux est le premier domaine sur lequel nous avons travaillé. Vous avez cité la plaine de l'Ourcq et en particulier la ZAC des rives de l'Ourcq, où effectivement, d'une part, il y a le réemploi de charpente métallique dans les futurs projets que nous allons mettre en place, mais également le réemploi d'un certain nombre de déchets de démolition dans les projets de voirie réseau distribution qui vont être mis en place. Nous avons aussi dans la ZAC de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen un certain nombre d'initiatives qui sont en cours de développement. Ça, c'est pour le réemploi des matériaux, ce côté économie circulaire. Nous affinons également…
Il y a aussi du béton recyclé, hein. Aussi.
Oui, et nous lançons également une réflexion sur l'emploi de matériaux biosourcés ou géosourcés dans nos opérations, en tout cas d'être capable de proposer à nos concédants d'utiliser ce type de dispositif nous-mêmes ou de les imposer à nos partenaires, que sont en particulier les promoteurs dans la construction d'un certain nombre de logements ou de bâtiments dans nos opérations d'aménagement.
Pascal Poplin, cette ZAC des Rives de l'Ourcq est l'une des quatre zones d'aménagement concerté de la plaine de l'Ourcq que vous aménagez. Ces quatre ZAC vont être réinterrogées suite aux dernières élections municipales et notamment, d'ici un an, les programmes des ZAC de l'Horloge à Romainville et de l'écoquartier durable de la plaine de l'Ourcq à Noisy seront revus. Dans quel sens vont aller ces changements, Pascal Poplin ?
D'abord, vous avez cité effectivement un événement qui n'est pas neutre et qui sont les élections municipales qui viennent d'intervenir avec pour les quatre communes qui sont dans les opérations de la plaine de l'Ourcq maîtrisées par Sequano, l'arrivée de nouvelles équipes municipales. Donc il est tout à fait normal que ces équipes souhaitent apporter leur marque au développement des opérations qui, pour certaines d'entre elles, sont prévues jusqu'en 2029. Mais au-delà de ça, ce temps coïncide avec ce qu'était la réflexion que menait Sequano préalablement à ces élections, puisque nous considérons que ce sont des opérations qui ont achevé leur première phase, soit dans la réalisation-livraison, soit en tout cas dans la mise en œuvre qui est en cours, et qu'il y avait utilité à réfléchir à ce qu'on fait pour ces opérations dans les deuxièmes phases qui étaient programmées, et dont la programmation était forcément moins précise. Il nous faut tenir compte d'un certain nombre d'événements qui sont intervenus depuis. Il y a eu sur la plaine de l'Ourcq un événement qui est non négligeable et qui est le retard qui a été indiqué par la Société du Grand Paris dans la réalisation de la ligne 15. Et donc de la station Pont-de-Bondy qui était située entre la ZAC des Rives de l'Ourcq de Bondy et la ZAC du quartier durable de la plaine de l'Ourcq à Noisy-le-Sec. On sait aussi que le projet du TZN3 sur l'ancienne Nationale 3, ce bus en site propre, un bus à haut niveau de service, a pris du retard et doit être probablement recalibré. Ça a un impact sur nos opérations d'aménagement, ça a un impact aussi sur les programmations, en particulier la programmation de bureaux qui était imaginée dans ces secteurs, nonobstant cette réflexion nouvelle qui est forcément introduite par la crise sanitaire. Mais la programmation de bureaux telle qu'elle était envisagée il y a 10 ans avec ces projets de transport et avant la crise sanitaire, bon, elle nous paraissait de toute façon devoir être réinterrogée au mi-terme de ces concessions d'aménagement avant d'enclencher la deuxième phase. Il y a d'autres projets qui ont émergé, certains pour apparaître. Je pense au repositionnement de l'hôpital Jean Verdier à Bondy, ou certains autres pour disparaître, comme un projet qui était les bassins de l'Ourcq, mis en œuvre par un promoteur privé sur tout un îlot et qui devait contribuer à être un équipement d'entraînement pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques. Vous parlez du pont de Bondy à Noisy.
Voilà. Et donc dont le calendrier de livraison ne collait plus avec le calendrier des Jeux Olympiques, qui donc aujourd'hui est un projet que les collectivités ont souhaité ne pas poursuivre. Donc tous ces éléments-là, forcément, ils doivent nous amener à réfléchir. C'était des éléments qui, pour la plupart, préexistaient aux dernières élections municipales. Et par ailleurs, les élections municipales conduisent de nouveaux élus à dire « moi, je souhaite qu'on regarde les questions de densité, je souhaite que l'on regarde les questions de programmation, je souhaite que l'on regarde les questions de périmètre des opérations, je souhaite que on regarde la problématique environnementale, les îlots de fraîcheur, la végétalisation, etc. » Donc, ce sont tous ces éléments que nous mettons en œuvre. Nous étions prêts avant les élections municipales, donc il était assez simple d'appuyer sur le bouton après. Et donc, il y a eu une première phase diagnostique qui a été présentée aux élus la semaine dernière et qui va enchaîner sur une phase préconisation. Peut-être ce qui est nouveau dans cette démarche, c'est qu'on est sur 4 ZAC, situé dans 4 villes, toutes dans le même territoire, mais que l'établissement public territorial Est Ensemble a souhaité qu'on mène la réflexion à l'échelle de la plaine de l'Ourcq, dans un premier temps, pour ensuite la décliner opération par opération. Alors, c'est peut-être un processus un petit peu plus exigeant et qui va prendre davantage de temps, mais en tout cas, qui a vocation à donner à l'arrivée une cohérence supplémentaire à ce que nous étions en train de faire dans cette partie du territoire de la Seine-Saint-Denis.
Le temps passe vite, on va partir maintenant sur la ZAC des Docks de Saint-Ouen où 100 hectares sont en jeu, près de 3000 logements à la clé. Les premiers secteurs sont en voie d'achèvement, les secteurs du milieu de la ZAC avancent bien aussi et c'est maintenant toute la dernière partie côté Clichy-la-Garenne qui s'amorce. Un mot de cette actualité, un mot aussi de votre filiale Sequano Résidentiel qui fait d'habitude de la copromotion et qui, me semble-t-il, va mener ici un de ses premiers projets en compte propre en lien avec la Solideo, parce que vous allez recréer une résidence sociale et une résidence étudiante qui doivent être déplacées avec l'installation des JO.
Oui, vous êtes très bien informé. Donc, tout d'abord sur la ZAC en elle-même, on est un peu dans le même processus que pour la plaine de l'Ourcq. C'est-à-dire qu'il y a eu, depuis le lancement de cette opération, un certain nombre de changements externes. Je pense en particulier au projet un temps imaginé et ensuite déplacé d'installer l'hôpital Grand Paris Nord et le campus universitaire au cœur de la ZAC des Docks. Ça a ouvert des pistes nouvelles de réflexion. Et donc, aujourd'hui, il y a probablement des secteurs qui n'étaient pas dans le périmètre opérationnel confié à l'aménageur et qui pourraient peut-être y venir. Autre élément, là aussi, nous avons, à l'issue des élections municipales, une nouvelle majorité à Saint-Ouen-sur-Seine, une nouvelle majorité à l'EPT Plaine Commune, et sans doute sur la programmation des évolutions qui sont souhaitées par les élus, en particulier sur le rapport entre l'habitat et le bureau. Je pense que aujourd'hui, les nouveaux élus de Saint-Ouen, comme les nouveaux élus de Plaine Commune, considèrent que des quartiers entiers exclusivement dédiés aux bureaux qui cessent d'être animés le soir à partir de 18h et qui sont complètement déserts le week-end. C'est peut-être plus ce qui est souhaité. Et comme on est par ailleurs dans une période où on s'interroge sur la manière dont va être écoulé déjà le stock de bureaux qui a été lancé en blanc au cours des dernières années compte tenu de la crise sanitaire, cette réflexion, elle est engagée. Et là aussi, je pense que d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, on aura une nouvelle programmation. Vous avez évoqué aussi Clichy-la-Garenne. C'est vrai qu'on ne peut pas raisonner simplement à l'échelle des limites territoriales d'une ville ou d'un département. Et que le secteur 5 et le secteur 6 de la ZAC des Docks, ils sont de l'autre côté d'un faisceau ferroviaire et ils sont tournés vers Clichy-la-Garenne. Eh bien, les élus de Clichy-la-Garenne et les élus de Saint-Ouen ont souhaité qu'on se rapproche, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on envisage des équipements en commun, peut-être un groupe scolaire intercommunal, et tout ça étant fluidifié par le projet du boulevard de la Liberté qui semble enfin pouvoir émerger. Voilà, pour la partie Sequano résidentiel, Sequano résidentiel est une filiale de Sequano qui fait de la promotion immobilière, la plupart du temps en partenariat, parce qu'il y a un élément de la profession de promoteur que nous ne maîtrisons pas et que nous n'avons pas envie d'apprendre parce que c'est pas le cœur de notre métier, qui est la commercialisation. Donc quand on est sur de l'accession à la propriété ou des projets de ce type, ben, on le fait en partenariat avec un autre promoteur. En l'occurrence, dans le cas que vous avez bien voulu citer, nous faisons des VEFA, l'une pour ADEF Résidence, l'autre probablement pour la Fondation Dauphine, pour la résidence d'étudiants. Et donc, dans ces cas-là, nous maîtrisons professionnellement l'ensemble du processus et nous le faisons tout seul.
Merci beaucoup, Pascal Poplin. C'est déjà l'heure de refermer cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Sequano Aménagement. Humeur de Ville vous donne rendez-vous le mois prochain.
Humeur de Ville, une émission présentée par cadredeville.com, la plateforme d'information des décideurs des projets urbains. Lucie Romano et Rémi Cambeau.